montre le fossé qui se creuse entre les opposants et les partisans de l'imprévisible Dr Trump.
Beaucoup de gens pensent que le virus s'en ira en avril avec la chaleur. Il y a un moyen de faire quelque chose comme une injection de désinfectant dans les poumons? Depuis une semaine et demie, je prends un cachet d'hydroxychloroquine par jour.
À la tête du pays qui compte le plus de cas de Covid au monde, Donald Trump voit la campagne pour sa réélection contrariée par un ennemi invisible. Impatient de remettre l'économie en marche, il donne des gages aux anti-confinements. Dans les manifestations, de simples citoyens pressés de retourner au travail côtoient des miliciens qui paradent lourdement armés. Le Covid-19 exacerbe les fractures de la société américaine. Dans un pays où 27 millions de personnes ne bénéficient d'aucune protection sociale, les minorités, plus pauvres, sont les premières victimes du virus.
La maladie elle-même ne fait que révéler quelque chose de préexistant au sein des communautés afro-américaines, telles que l'hypertension, le diabète et les maladies cardiovasculaires.
Donald Trump sacrifie-t-il délibérément les Américains à la santé la plus fragile? Ou fait-il au contraire le bon choix en relançant l'économie pour éviter la catastrophe sociale? À 5 mois de l'élection présidentielle, la pandémie est-elle en train d'élargir les fractures de l'Amérique?
92 000, c'est le nombre de décès qui a marqué les États-Unis récemment, le chiffre le plus important au monde. Alors la question est simple, Philippe Goulu, est-ce que ce chiffre est imputable à Donald Trump, 92 000.
Il est imputable à plusieurs choses. Il est imputable évidemment à la malgestion, à la mauvaise gestion dès le départ de la pandémie par le gouvernement fédéral, par son impréparation, aussi par une certaine forme de rejet de la science qui a contaminé les milieux politiques républicains, un refus de l'opinion scientifique au profit d'idéologies qui sont des idéologies un peu curieuses, irrationalistes, sur l'évolution, sur le créationnisme, le mouvement anti-vaccin, etc. Mais donc il y a une impréparation et une forme d'idéologisation de la part du président et de son milieu politique. Mmh. Qui est effectivement en cause ici. Il y a une impréparation, mais on peut le dire aussi de certains pays européens, n'est-ce pas? Il y a une impréparation en Europe aussi. Il y a ça, et puis il y a surtout les structures sociales aux États-Unis qui font que la cause la plus profonde, les structures sociales aux États-Unis inégalitaires, profondément inégalitaires.
On va y revenir tout à l'heure.
Qui génèrent les conditions de la propagation, particulièrement, comme le reportage l'a dit, parmi les minorités vulnérables.
On y reviendra tout à l'heure, mais sur la responsabilité de Donald Trump.
Oui, moi en fait, j'ai un point de vue un peu différent parce que j'ai le sentiment que, évidemment, on charge Donald Trump parce que c'est quand même une cible extraordinaire. Et c'est vrai qu'il a été en retard pour prendre la mesure de cette épidémie. Mais il faut quand même souligner que sur ces 90 000 morts, ça représente quand même en proportion un pays qui se situe, je crois, le dixième. C'est-à-dire il est loin derrière en termes proportionnels entre population et nombre de morts. Il est loin derrière la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et d'autres. Je crois que ils sont aux alentours de 150 pour un million.
Mais donc on aurait pu en inviter. Et dans tous ces pays,
on aurait pu,
les populations se sont tournées vers le dirigeant.
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas imputer à Donald Trump ses morts, ou alors on doit imputer aussi à Emmanuel Macron les 26 000 morts qu'il y a en France. Est-ce que c'est complètement sérieux? Moi, je pense que il a eu ses torts, encore une fois, mais il a aussi pris un certain nombre de mesures qui ont été, à mon avis, utiles, comme par exemple le fait qu'il a fermé il a été quand même le premier à fermer les frontières des États-Unis fin janvier, à un moment où c'était considéré par toute la classe politique d'opposition comme une véritable affront, en fait, et même en Europe, où on a attendu beaucoup. Donc, je pense que si vous regardez, quand il commence à prendre des mesures un peu sérieuses, c'est mi-avril, vers le 13 ou 14, c'est-à-dire à peu près au même moment que la France.
Un mois avant la France, quand même, confinement 17 mars.
Oh non, 17 mars.
Ah oui, 17
mars. Oui, oui. 17 mars.
Peut-être qu'il avait reçu
des avis sur... C'est pas 17 avril, c'est 17 mars. C'est le même moment.
Il avait quand même reçu des avis à la fois scientifiques et politiques de la part de ses conseillers, bien avant.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est un pays fédéral en même temps.
Bien sûr.
Donc,
exactement.
C'est vrai, est-ce qu'on peut tout lui imputer alors que c'est les gouverneurs qui avaient la main principalement.
Non, c'est les structures sociales américaines qui sont en cause ici fondamentalement, inégalitaires longues dans l'histoire des États-Unis, structurées longuement dans l'histoire américaine. Mais effectivement, c'est pas imputé à Donald Trump personnellement la totalité du désastre en cours aux États-Unis, c'est bien sûr pas ça. Mais il porte quand même une responsabilité, c'est lui le président après tout, n'est-ce pas ? Et en tant que président, il a fait des choses tout à fait extraordinaires, je dois dire. Quand il fait sa conférence de presse quotidienne, il suggère quand même d'utiliser l'eau de Javel comme méthode d'injection contre le virus, ou plus récemment quand il annonce qu'il prend une drogue très controversée personnellement, sur son avis. Il fait des choses tout à fait extraordinaires de ce point de vue-là.
Laure Mandeville, est-ce qu'il y a une faute presque politique et morale lorsqu'il soutient des opposants au confinement et aux mesures de précaution sanitaire ? Il les a soutenus par tweet. Là, est-ce qu'on franchit le cap de l'irrationalité pour entrer dans la faute morale ou politique ?
Vous voulez dire ceux qui sortent dans la rue ?
Oui, ceux qui sortent dans la rue au risque de propager le virus avec des armes ou pas d'armes, et que Donald Trump les soutient.
Oui, c'est vrai que, alors avec des armes, évidemment, on a vu par exemple, c'était dans le Minnesota ou dans le Michigan, je crois, où il y a eu un épisode où effectivement des hommes armés sont rentrés à l'intérieur du Parlement. Ça, évidemment, on peut pas cautionner ce genre de point de vue. Mais c'est vrai que Trump, il est toujours à la limite, si vous voulez, vous pouvez appeler ça une faute morale, mais il est toujours à la limite. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on se pose la question de savoir si c'est un diviseur, il ne faut pas oublier que Trump, c'est par définition un homme qui est arrivé pour casser le système. Donc il est par définition diviseur. Il ne se pose pas d'ailleurs nécessairement au départ en rassembleur. Après, il dit, si, je vais quand même rassembler les Américains, mais il, et aussi, il surfe sur une intuition qui est qu'aujourd'hui, il faut prendre le risque de déconfiner. Pourquoi ? Parce que lui, il pense qu'il faut relancer l'économie. Il ne dit pas relançons, il dit les gouverneurs doivent prendre leurs responsabilités. Bien sûr que s'il y a des dangers, il ne faut pas le faire, il faut faire attention, mais nous devons rouvrir notre économie. Et je pense que ça correspond à une culture politique américaine et économique. C'est-à-dire que les Américains ont une culture du risque. C'est-à-dire qu'ici, on tiendra beaucoup
c'est
plus responsable, me semble-t-il, en France, le président, si il y a des morts parce qu'on a pris le risque aux États-Unis. Aux États-Unis, on prend le risque, on prend ses responsabilités. Et je crois que Trump, en fait, il sait que son électorat accepte en fait cette prise de risque au nom de l'économie.
Et puis globalement, Philippe Gobuc, les États-Unis, c'est economy first, c'est d'abord l'économie.
23 millions
de chômeurs. D'abord l'économie, mais la réalité de la chose, c'est que l'économie dite de marché, c'est-à-dire l'économie pour le marché, la société pour le marché, la société de marché. Qui a été mise en place depuis une trentaine d'années à peu près aux États-Unis et de façon de plus en plus accélérée. Société de marché, exclusivement de marché, aujourd'hui démontre ses limites et sa faillite. Parce que le nombre des chômeurs, le nombre de personnes qui ne sont pas assurées, c'est en septembre que nous allons voir en Europe, aux États-Unis et ailleurs, les véritables dégâts économiques qui seront terribles.
Attendez.
Sur l'histoire, je crois qu'on ne peut pas mettre sur le même plan le nombre de gens qui ne sont pas assurés et les chômeurs. La question des chômeurs, c'est qu'aux États-Unis,
les
en fait, je sais bien, mais aux États-Unis, il y a un nombre très impressionnant de chômeurs parce qu'en fait, c'est une économie qui réagit toujours au quart de tour. Donc, elle limoge en masse et elle réembauche en masse. Donc, en fait, ils sont beaucoup plus réactifs. C'est une autre chose de dire.
On n'est pas du tout dans cette configuration. Il ne va pas y avoir des réembauches de masse puisque la récession sera longue. Ça c'est un discours. C'est un discours sur la manière dont les États-Unis rebondissent pendant les crises. En réalité, nous sommes dans une configuration tout à fait nouvelle.
Philippe Golub, vous disiez, c'est une société divisée. Et là, on l'a vu encore davantage entre les communautés afro-américaine, blanche, c'est aussi ça ce qui s'est manifesté à l'occasion de cette crise.
L'impact différentiel, il y a 50% de plus de morts afro-américaines dans toutes les grandes villes, ou à peu près 50% dans toutes les grandes villes américaines, que de morts et d'hospitalisation en réanimation côté population dite blanche, n'est-ce pas ? Et c'est vrai des hispaniques américains aussi, mais dans une moindre mesure. Les longues fractures raciales historiquement construites aux États-Unis se révèlent ici dans leur tragédie véritable aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas sorti fondamentalement des structures de ségrégation qui ont existé pendant très longtemps aux États-Unis. Et le résultat pour ces communautés est tout à fait désastreux.
Laure Mandeville, nous venons de voir Joe Biden. Quelle incidence sur l'élection de novembre, cette pandémie?
Oui, alors ça, c'est vraiment la question à $1 million. C'est-à-dire que, effectivement, cela va avoir une incidence, c'est une évidence, mais nous ne savons pas laquelle. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous ne savons pas si la pandémie va repartir au fur et à mesure que l'économie sera ouverte. Donc là, il y a le risque que prend Trump. Si la pandémie repart et qu'on a un nombre de morts énorme, pour lui, ça sera une catastrophe. Si ce n'est pas le cas et qu'il arrive à relancer l'économie partiellement, il est tout à fait possible qu'un certain nombre d'Américains lui en soient reconnaissants. Et la question, ça va être cet électorat pivot des indépendants qui, eux, ne sont pas spécialement emballés par les folies de Donald Trump que vous avez évoquées, Philippe Golub, mais qui en même temps sont très attachés à la question de l'économie. Donc, leur pouvoir d'achat, leur existence. Et puis le troisième facteur, c'est évidemment la question de Joe Biden. C'est-à-dire que Joe Biden aujourd'hui est confiné. Est-ce qu'il va se déconfiner pour faire campagne, alors que Trump a déjà commencé d'aller sur le terrain? Ou est-ce qu'il va apparaître comme un homme finalement affaibli
ou juste qui se protège, vu son âge, hein. Il a 78 ans, n'est-ce pas?
Tout à fait. Donc pour lui, c'est un coup, je dirais, encore plus dur, parce que dans une crise comme ça, est-ce que les Américains vont vouloir quelqu'un qui est obligé
de se protéger
et qui a peur, en fait, de sortir?
Ce n'est pas le candidat parfait.
Mais vu de ce côté-ci de l'Atlantique, on se dit qu'il aurait dû s'effondrer dans les sondages, Philippe Golub, le président américain actuel. Ce n'est pas le cas.
Pas du tout.
Non, il ne s'est pas effondré, mais il descend quelque peu. C'est-à-dire que sa base reste stable. Hein. Oui. Sa base reste stable et sa base est très idéologisée, elle est très polarisée. La société américaine est très polarisée depuis longtemps. Et Donald Trump s'est efforcé justement de polariser la société américaine dans son effort de déconstruction des institutions et des structures politiques américaines. Donc on est là dans une situation de très grande division de la société dans laquelle il y a un candidat démocrate qui n'est pas un candidat qui ne mobilise pas et qui, jusqu'à récemment, peut-être changera-t-il, on verra bien, mais jusqu'à récemment, son programme n'était pas un programme très enthousiasmant. Il disait, on revient à l'avant.
Absolument.
On revient à Obama.
Et
ça, ce n'est pas un programme.
Alors, est-ce que ce n'est pas ça aussi l'enjeu de la prochaine élection, la fracture sanitaire? Est-ce que ça peut être préjudiciable à Donald Trump?
Oui, alors, effectivement, c'est une vraie question et je pense que les démocrates vont jouer de cette question de la santé à fond, et c'était d'ailleurs déjà le cas avant cette crise. Mais on retrouve les mêmes fractures qui ont toujours existé. Moi, en fait, c'est la chose qui... J'ai passé 8 ans aux États-Unis. La chose qui m'a le plus frappée aux États-Unis, c'est la fracture de la société. Et en fait, elle passe sur la question de la santé comme sur le reste. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une fracture profonde entre ceux qui estiment que l'État n'a pas à être une nounou qui est là pour vous protéger, s'occuper de votre santé, qui disent « on s'en occupe nous-mêmes, on s'assure, etc. Et on ne veut pas payer ». Pour tous les
autres. Pour les autres.
Exactement. Et vous avez une autre partie de la société qui, effectivement, est en particulier les plus vulnérables, qui est dans une vision complètement différente. Et ça, c'est des choses mais fondamentales. C'est pareil sur l'avortement, c'est pareil sur la religion. Et donc, moi, ce que je voudrais quand même dire, c'est qu'il ne faut pas croire que c'est avec Donald Trump qui a inventé la division ou créé la division de la société américaine. Elle existe depuis des décennies. Sous Reagan, les Américains étaient hyper divisés. Pareil sous Bush, pareil sous Clinton.
Mais justement, Philippe, est-ce que ça peut changer la donne, la pandémie, ou non? Cette fracture est tellement installée que peut-être que les Américains peuvent passer outre et rester dans leur débat permanent.
Ça crée une opportunité, à savoir, la grande question est de savoir si les démocrates sauront, Biden et l'équipe qu'il est en train de constituer, sauront trouver les moyens de mobiliser dans des nouvelles conditions et aller porter le message justement d'une maladie universelle, couverture de maladie
universelle.
Pour les États-Unis, parce que les Américains, au fond, ceux qui reçoivent Medicare, c'est-à-dire la couverture gouvernementale étatique des seniors aux États-Unis, sont très contents, y compris les conservateurs qui le reçoivent. Il y a la potentialité de mobiliser autour de ça.
Question est de vous n'avez pas l'air d'y croire.
Ouais. Ben, c'est-à-dire que je pense que non, je crains que Biden soit un faible candidat pour porter une mobilisation nationale pour transformer.
C'est une révolution.
Pour transformer en profondeur les structures sociales américaines.
Et même philosophiques, mentales.
Oui, de ce point de vue, Bernie Sanders était en réalité porteur beaucoup plus d'une révolution.
Et voilà
une révolution.
Et voilà que nous sommes d'accord.
Absolument.
Et ben voilà.